Média. Média.
Podcast.
Média. Podcast.
Et c'est avec un énorme plaisir que je vous retrouve sur Média pour cette nouvelle escale culture au cœur de l'Afrique.
Média. Amna. L'Afrique en culture.
Et dans quelques instants, nous parlerons littérature avec le romancier, l'auteur Mourtar Chaoui qui revient avec son nouveau roman baptisé Le Quatrième Livre. Un livre assez particulier qui tient tout particulièrement à cœur à l'auteur. Et on en parlera avec lui dans quelques petites minutes. Sinon, nous parlerons cinéma documentaire avec Hind Medeb, qu'on ne présente plus. Soudan, souviens-toi, elle reviendra donc sur cette immersion totale dans le quotidien de la société soudanaise en pleine révolution. On reviendra eh bien, sur ce très beau documentaire, sur cet élan de vie de ce mouvement de jeunesse en quête d'espoir, de changement et surtout de liberté. Et nous parlerons encore une fois cinéma avec eh bien, ce coup de cœur, Les miennes face à ma mère de Samira Al-Mouzribati qui propose un film documentaire intime, un voyage introspectif entre la Belgique et le Rif marocain. On reviendra donc sur ce très beau documentaire dans quelques instants. Et comme promis, eh bien, nous allons à la rencontre de l'écrivain Mourtar Chaoui qui revient eh bien, avec son tout dernier livre baptisé sobrement Quatrième Livre, un roman très parlant dans lequel eh bien, Mourtar Chaoui se pose certaines questions par rapport à la vie, à la spiritualité et notre rapport au monde et au divin. On écoute tout de suite Mourtar Chaoui.
Ce quatrième roman, il s'intitule quatrième, mais en fait, il est le neuvième. Donc, mais le quatrième roman répond tout simplement à la thématique abordée dans l'histoire. Et c'est un roman qui s'est imposé de lui-même, puisque en fait, c'est une sorte de continuité d'un roman précédent que je peux vous montrer qui s'intitulait L'amour et paradis. Et dans L'amour et paradis, il y a un personnage un peu spécial qui s'appelle Mehdi, qui est un morshid, donc un guide d'une zaouïa. Et j'ai voulu tout simplement lui donner un destin à ce personnage. J'ai voulu lui donner de l'ampleur et j'ai créé tout simplement toute une histoire autour de lui avec des idées qu'on peut qualifier d'idées progressistes, puisque étant donné qu'il c'est un morshid, il va essayer tout simplement de changer certaines choses qui sont considérés comme des tabous, et ce qu'il va faire va être considéré comme un blasphème. Et donc, c'est une histoire qui tourne globalement autour des gens de la Zaouïa, du sophisme, mais aussi de ces gens qui ont, je ne sais pas si on peut qualifier ça de courage ou de lâcheté, mais en tout cas qui ont, moi j'appelle ça le courage, de pouvoir questionner en fait les questions tabous et surtout qui ont un rapport avec la religion. Et donc, la genèse de ce livre, en fait, comme je viens de dire, s'est imposée d'elle-même parce qu'il y avait déjà un précédent, le personnage était déjà là, mais on l'a découvert, si vous voulez, dans L'amour et paradis à 40 ans. Et je voulais lui donner justement, comme je viens de dire, un destin. Donc, j'ai parlé de son enfance, je lui ai créé une famille, des amis, et à la fin, bien entendu, une zaouïa dont il va être le morshid, le maître, et à travers laquelle il va essayer de faire passer ses idées, comme je viens de dire, non simplement progressistes, mais pour certains, blasphématoires. Voilà grosso modo, bien entendu, l'idée ou l'intrigue ou l'histoire de ce roman. Bien entendu, l'objectif n'était pas de critiquer les religions ou la religion, mais principalement de critiquer les hommes ou les femmes, en tout cas les personnes qui font de la religion leur fonds de commerce. J'insiste sur ça, j'insiste sur le fait en fait que ce livre a été écrit, a été conçu, a été élaboré pour tout simplement dénoncer ces commerçants de la religion qui, par des moyens, comme nous connaissons tous, deviennent riches il joue un peu trop sur la spiritualité. Voilà grosso modo. Bien entendu, il y a d'autres événements, d'autres personnages, etc. Mais grosso modo, l'idée tourne autour de ça.
Et en tant qu'écrivain, voilà, à mon avis, on ne peut pas être écrivain sans avoir un œil de sociologue, en tout cas le don d'observer, un peu de scanner les gens, ce qu'ils ressentent, ce qu'ils pensent, mais au-delà de ça aussi, avoir ce recul sur une dite société. Et vous, comment vous voyez le métier d'auteur actuellement en 2025. Quel est votre regard sur ce métier?
Eh bien, quelle question! Vraiment, c'est une très très belle question parce qu'on commence vraiment à se poser la question s'il est encore utile de continuer à écrire. Pour plusieurs raisons. La première, c'est que j'ai l'impression que tout le monde a commencé à écrire. Et ça, c'est une bonne chose. Je ne dis pas qu'il faut interdire l'écriture à tel ou un tel. Tout simplement, il faudrait laisser le temps au temps, c'est-à-dire c'est la postérité qui va plus ou moins choisir parmi les bons et les mauvais. Mais le véritable danger pour moi en 2025 pour un écrivain, et surtout pour un romancier, c'est ce qu'on appelle l'intelligence artificielle. Il me semble que de plus en plus, les gens, je dirais, s'appuient sur l'intelligence artificielle pour trouver des intrigues, pour trouver des histoires, pour trouver des personnages et pour écrire. Moi, je me rappelle d'un cas que vous connaissez sûrement, le cas d'une Japonaise qui a eu l'équivalent du prix Goncourt au Japon. Et lorsqu'il a eu le prix, il a avoué, peut-être par naïveté, que pratiquement une partie de son roman a été écrite grâce à l'intelligence artificielle. Et donc, on lui a retiré le prix. Tout cela pour dire en fait qu'on est face à une écriture qui va être de plus en plus artificielle, et que la différence qu'il va y avoir entre un vrai écrivain et un écrivain qui repose sur l'intelligence artificielle, c'est peut-être ces émotions que, heureusement encore, l'intelligence artificielle n'arrive pas à formuler. Je pense que ce qui reste dans l'écriture maintenant, ce qui reste de pur, d'intègre, de sincère dans l'écriture, c'est tout simplement lorsqu'on ressent que ce qu'on est en train de lire sort des tripes de l'écrivain. Et je pense que j'espère en tout cas que l'intelligence artificielle n'arrivera jamais à atteindre ces tripes-là, ces émotions-là, ces sentiments-là, et qu'ils vont rester éternellement humaines. Parce que si on arrive à déceler la substance de ces émotions et qu'on l'intègre dans l'intelligence artificielle, alors on peut parler de la fin du monde, en tout cas de la fin de l'humanité. Voilà.
D'ailleurs, votre dernier, le quatrième livre, tout dernier donc roman. Merci beaucoup, Mansa Chaoui, d'avoir été avec nous. C'est un plaisir de vous recevoir.
Merci à vous.
Et après avoir parlé littérature avec Mokhtar Chaoui, je vous propose tout de suite de parler cinéma documentaire avec Samira Al-Mozribati, Les Miennes, qui propose un premier film documentaire intime, un voyage introspectif entre la Belgique et le Rif marocain, où elle dresse le portrait complexe de sa mère et de ses quatre sœurs. Une œuvre très personnelle, courageuse et teintée de réflexion universelle. Cinq sœurs, un vrai clan qui a exclu au fur et à mesure du temps la maman, la figure maternelle. Mais pour quelles sombres raisons, justement, la mère est-elle mise au banc de la famille ? Les Miennes, de la réalisatrice Samira Al-Mozribati, qui est la dernière de ses cinq sœurs, et son documentaire Les Miennes explore justement les raisons de ce rejet, mais aussi les tabous, les divisions, encore le non-dit qui caractérise sa famille, mais aussi des générations de femmes marocaines avant elle. Dans ce premier film documentaire, elle explore l'intimité de sa famille avec beaucoup, beaucoup de sensibilité et de pudeur, en montrant des moments sensibles, d'autres drôles. Elle joue avec les émotions pour nourrir justement une narration et qui lui permet d'illustrer au mieux son propos. Prix du meilleur montage au Brief, Les Miennes est un récit vibrant, intimiste, autour d'une famille et de deux générations, voire de trois. Samira montre comment sa maman, femme pieuse dans la pure tradition, se heurte dans une sorte de déni, de silence à un mari plus progressiste et à des filles qui veulent tout simplement vivre leur vie comme bon leur semble. D'ailleurs, l'une va divorcer après un mariage forcé. C'est ce silence, ces silences, ces non-dits qui ont forcément provoqué l'exclusion de la maman, et le film agit sur cela comme une catharsis, comme une sorte de constellation familiale cinématographique. Et on continue de parler documentaire dans l'Afrique en culture avec Hind Medeb, Soudan, souviens-toi, un film documentaire dont on a beaucoup parlé. On a eu le plaisir de rencontrer Hind Medeb avec Soudan, souviens-toi. Hind Medeb signe une œuvre à la fois poétique, vibrante et poignante. Alors si certains y verront avant tout une chronique documentaire, d'autres auront peut-être la sensibilité de percevoir la poésie qui se cache dans ces images, ce chant d'espoir et cette lutte d'une jeunesse, d'une société, d'un peuple qui a soif de liberté, d'émancipation et surtout d'espoir. On écoute tout de suite Hind Medeb. Ravie de vous retrouver sur Média pour le Festival International.
Média, ma radio préférée.
Super, je ne le savais pas.
J'ai même fait des chroniques sur Média.
C'est vrai.
Et mon père avait une émission sur Média. Donc,
c'est la maison.
C'est notre radio de cœur. Et Tanger, c'est ma ville préférée au Maroc.
On est deux alors.
Enfin, j'aime bien Marrakech aussi, je vais pas.
C'est vrai que Tanger, elle a quelque chose de spécial. Et c'est vrai que voilà, je te tutoie, si tu permets.
Je suis en train de m'installer à Tanger. Je vis entre Paris et Tanger.
Magnifique. Et ton film, donc, Souviens-toi, Soudan, Souviens-toi, est en compétition officielle. Hind, voilà, tu es une cinéaste, je pense aussi une femme qui a soif de liberté, de vérité plurielle, des réponses, des questionnements aussi. Et en tant que femme, je sais, si je ne me trompe pas, que tu es partie sans équipe pour faire ce film. Chose qui est très courageuse, mais je pense que quand on a cette passion, on se lance, et puis c'est comme une aventure amoureuse, on se lance, et puis on y va, et puis on verra ce qui adviendra, mais il faut le faire, c'est important de le faire, c'est ça aussi, je pense, qu'être une cinéaste engagée et profondément intègre et honnête envers son travail, mais également envers le peuple qu'elle filme, c'est tout à votre honneur. Et comment ça s'est passé, le tournage ?
C'était un tournage très compliqué. Rien ne se passait comme c'était prévu. Et en même temps, je pense que c'est cette spontanéité. J'ai beaucoup dit que ce film était une lettre d'amour au Soudan parce que, en fait, c'est une histoire d'amitié. Ça commence avec mon amitié à Paris avec des Soudanais. Ensuite, quand j'arrive là-bas, je me lie d'amitié avec les gens que je filme. Je deviens partie prenante. Je suis à leur côté. Je fais corps avec eux. Je suis pas un regard. Je suis un regard extérieur, ça c'est sûr. Mais j'ai pas forcément la distance qu'on peut avoir si on est dans un film qui va être plus journalistique. Là, vraiment, j'assume complètement que c'est un film personnel qui ne cherche pas à tout raconter, qui ne cherche pas à tout expliquer, mais qui veut montrer un regard de l'intérieur avec les gens, avec beaucoup d'empathie, avec beaucoup d'amour aussi. Et c'est vraiment ça qui était important pour moi. Mais ensuite, effectivement, film très compliqué. Dès le premier jour de tournage, quand j'arrive sur le sitting révolutionnaire, qui est en fait cette ville dans la ville où des gens de tout le Soudan sont venus et se sont installés, ont planté des tentes autour du quartier général de l'armée et du palais présidentiel. Et c'est immense, en fait. C'est pas comme la place Tahrir ou l'avenue Bourguiba. C'est vraiment des rues entières. C'est un immense espace. Et quand j'arrive là, tout de suite, en fait, il y a une attaque de miliciens et des gens qui nous tirent dessus. Et je crois que j'ai jamais couru aussi vite de ma vie. Moi, j'ai jamais été dans une zone de guerre, j'ai absolument aucune expérience. Et je pense aussi que c'est cette inconscience et ce manque d'expérience qui a fait que ce film a été possible. C'est que tout de suite, j'ai été avec les gens et proche d'eux. Et j'ai eu très peur à beaucoup de moments, mais j'ai aussi eu beaucoup de l'inconscience du danger. Et je pense que c'est cette inconscience qui m'a permis de faire le film. Et le fait d'être, en amitié.
Et je pense que c'est ça aussi.
Et ce qui m'a sauvée, c'est aussi d'être marocaine, tunisienne, de parler l'arabe, d'y être allée avec un visa, pas sur mon passeport français, quand je me faisais arrêter par l'armée.
Passeport marocain,
Là, je suis allée avec le passeport tunisien parce que c'était celui qui était prêt. et tout de suite, les militaires me parlaient de football, de la Coupe d'Afrique, ça partait en blague. Et puis, de voir aussi une femme seule, la vulnérabilité. Enfin, être une femme m'a beaucoup sauvée parce que les gens voient votre vulnérabilité et donc ils ont envie de vous aider. Ils ne vous voient pas comme une menace. Vous n'êtes pas une grosse équipe, vous n'êtes vous êtes pas avec une télévision. Et donc cette fragilité, et aussi quand on va au Soudan, pour avoir un visa, il faut avoir une invitation. Et moi j'étais invitée par la Maison de la Poésie. à Khartoum. Et je disais que je faisais un film sur la poésie. Et j'avais toujours avec moi les livres de mon père. Il y a un très beau livre de mon père qui s'appelle L'Islam, la part de l'universel, qui est publié en bilingue par une éditrice marocaine. Et ce très beau livre, je l'avais toujours avec moi. Et donc, c'est ça qui m'a sauvée, en fait. C'est de dire aussi que mon père a traduit Taïb Salah, qui est un des plus grands écrivains soudanais. Il l'a traduit de l'arabe vers le français. Et j'ai appris, en fait, en cours de route, c'est ma mère qui me l'a dit, quand elle a vu ma passion pour le Soudan, elle a rigolé, elle a dit, mais tu sais, tu étais petite, tu te souviens pas, c'est dans les années 80, mais ton père adorait le Soudan, la langue soudanaise. Il était ami avec Taïb Salah, il a fait connaître la littérature soudanaise en Europe. Et il avait une passion pour les Soudanais. Et donc, c'est comme si inconsciemment, je le savais. Et quand je suis arrivée à Khartoum et que j'ai vu effectivement cette révolution féministe en cours, les femmes en première ligne, et mon père avait aussi ce rêve d'une révolution féministe, j'ai eu l'impression que les Soudanais étaient les enfants d'Abdelwahab. C'est comme s'ils avaient lu ses livres. Et les Soudanais en avaient conscience. Et dans les conversations des femmes dans le film, c'est comme si c'était mon père qui était en train de parler. Et c'est pour toutes ces raisons que je me suis reconnue dans la lutte des Soudanais, dans leur poésie, dans leur chant.
Et leur espoir aussi. En tout cas, c'est vrai que c'est un très beau film. Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Et merci infiniment.
Merci.
Et avant de nous quitter dans l'Afrique en culture, eh bien nous allons parler de cette pièce de théâtre baptisée Samori Touré, l'intraitable chef. La pièce retrace les grandes heures de Samori Touré et de son empire à cheval sur le Mali, la Guinée et la Côte d'Ivoire. D'ailleurs, il résistera pendant 17 ans aux colons. C'est une pièce de théâtre donc inspirée des sofas de Bernard Zadi Zaourou qui a été tout simplement réinterprétée. Et selon le metteur en scène, Samori Touré se fait rapidement remarquer pour ses capacités dans le maintien des armes. Au centre de la tragédie, on retrouve une opposition. D'un côté, le chef de guerre, soutenu jusqu'au bout par son peuple. De l'autre, son fils, le prince partisan de la paix. Avec les Français, un thème d'actualité pour le docteur Charles Boukipo, qui produit le spectacle avec l'ONG Y. Il dit en voix dans Samori Touré un personnage historique qui a fait preuve de résistance à une époque, de dignité, de souveraineté. C'est ce message que l'on veut montrer, de pouvoir se prendre en charge, qui est une notion importante qu'il faut faire comprendre à cette jeunesse aussi par la même occasion. Donc la pièce inspirée des sofas de Bernard Zadi Zaourou donne une autre image de Samori Touré, baptisé donc l'intraitable chef dans cette pièce de théâtre jouée à Abidjan ce moment même. Et on arrive à la fin de l'Afrique en culture. Merci d'avoir été avec nous. Et avant de nous quitter, je vous rappelle que l'Afrique en culture s'est retrouvée en avant-première sur Média Podcast. Tout de suite, Caramella Sexy Lady, qui a été donc démocratisée par Saint-Levant. On se fait plaisir. Très bonne écoute à tous et à très bientôt sur Média.
Caramella Sexy Lady, فاديتك يا بيبي. مش عاجبها اتيكيتي رحت تقدمت لها اتاري بدها فيلا يا حبيبي بدها لحم وكباب ما بتاكل مرتديلا عش ونش يابا والله ما علي الجيري حلوة وبدها سكسي ليدي بدها عرس بالمدينة والله ما علي الجيري حلوة وبدها الستيري سكسي ليدي بدها عرس بالمدينة
اجبت
يما عيوني العسلية لليش البرج وزية مليون لبيع الخامس مية خد القدع تعيش بدلع اللي بيجيك لباب الباب
على السنة ده رسوله
يا طالعة على الكلية
قريتني أنا الكتاب والله ما علي الجيرة حلوة وبدها الستيرة سكسي ليدي بدها عرس بالمدينة والله ما علي الجيرة حلوة وبدها الستيرة سكسي ليدي بدها عرس بالمدينة
أجبت
هالجاكرة صحباتها
ولدية ولدية
من ويلي يا خالة برتاح ليش الحصالة
والله ما علي الجيري حلوة وبدها الستيري سكسي ليدي بدها عرس بالمدينة والله ما علي الجيري حلوة وبدها
فضيتي لي جيباتي ما اكثر طلباتك يا حياتي ما ضلش معي ولا نك لو بيعتيني شنباتي
روحت يا
ارحميني في كفي شكله على ايدك حبسي
شيب الكلبش شيب الكلبش
وحاطت ايدي على كفي نسرق كل بنوك الطفي
حرامي
ها ها والله ما علي الجيري حلوة وبدها الستيري سكسي ليدي بدها عرس بالمدينة والله ما علي الجيري حلوة وبدها الستيري سكسي ليدي بدها عرس بالمدينة
أجبت